97.3, on vous donne l'heure juste.
Bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à l'heure juste sur les ondes du 97.3. Mon nom est Simon Dominé, directeur de l'information à CAGAFM, et je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 1er avril 2026. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le porte-parole de SOS Outaouais, Jean Pigeon, à propos de la première politique sur les soins et services de première ligne. Elle a été présentée vendredi passé par la ministre de la Santé, ministre des Aînés et des Proches Aidants et ministre responsable des services sociaux, Sonia Bélanger. Le gouvernement présente cette nouvelle idée comme un des pans de la transformation du réseau, en parallèle d'autres initiatives comme le changement au mode de rémunération des médecins ou encore l'élargissement des champs de pratique de plusieurs professionnels de la santé. Monsieur Pigeon donne aussi son avis sur les propositions qui ont été émises en santé par les candidats à la chefferie de la coalition Avenir Québec, Christine Fréchette et Bernard Drinville. Mais d'abord, ma collègue Annie Martin, journaliste à la salle des nouvelles de CHGA, parle en première partie d'émission de la réouverture temporaire de la série de Domtar à Maniwaki. Elle en discute avec le représentant national du syndicat Unifor, Jean-Philippe Roy. Monsieur Roy aborde les enjeux du marché actuel, d'approvisionnement et parle des besoins d'accommodement dont ont besoin les travailleurs forestiers. Bonne émission.
Au 97.3, on vous donne l'heure juste. C-H-G-A.
Je suis avec le représentant national d'Unifor, Jean-Philippe Roy, qui supporte les membres de Maniwaki de l'usine de Domtar. Tout d'abord, merci d'être avec nous, Monsieur Roy, aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Il sera question de la réouverture temporaire de l'usine de Domtar de Maniwaki, de ce qu'elle signifie pour les travailleurs et la communauté, et aussi des perspectives à plus long terme. Dans le fond, j'aimerais savoir, d'entrée de jeu, Jean-Philippe Roy, après des mois d'incertitude, que représente cette réouverture temporaire pour les travailleurs et pour Maniwaki?
C'est comme une bouffée d'air frais un peu, mais on s'y attendait. C'est dans la réglementation pour pouvoir conserver les garanties d'approvisionnement, d'opérer un minimum de 5 semaines à tous les 6 mois. Fait qu'on, c'est au calendrier, on s'attendait qu'il y aurait une reprise. Et on s'attendait qu'elle serait seulement pour 5 semaines. On avait été chanceux l'an dernier, quand il y avait eu la reprise suite à l'arrêt de 2024, que la reprise avait duré... Au-delà de 5 semaines, je crois qu'on avait opéré pratiquement 5 mois. Mais là, avec la conjoncture du marché, on s'attendait que ça soit seulement 5 semaines.
Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont déjà quitté l'établissement, en fait l'usine, et qui sont rendus dans d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a des précisions à cet égard?
Je n'ai pas de confirmation de ce côté-là. À l'arrêt précédent, je sais qu'on avait perdu quelques-uns. Il y avait des travailleurs étrangers temporaires qui étaient là, qui ne sont plus là. Pour cette ouverture-là, on avait des gens qui étaient partis travailler à une usine de Domtar à Sainte-Terre en Abitibi. Dans la convention collective, ça prévoit que si des gens sont rappelés à leur poste, sont obligés de revenir, sinon ils perdent leur lien d'emploi, leur ancienneté. Mm-hmm. On a signé une lettre d'entente avec l'employeur pour permettre aux gens qui sont en Abitibi et qui veulent rester en Abitibi, donc de ne pas bouleverser leurs affaires là-bas, d'y rester sans perdre leur ancienneté pour permettre à d'autres gens de Maniwaki, qui sont dans la région de Maniwaki, de pouvoir travailler. Fait que c'est des gens qui seront pas de retour au travail présentement à cette reprise-là, mais qui restent quand même dans l'entreprise et qui vont pouvoir prendre leur poste quand que les opérations vont reprendre normalement là, sur du plus long terme.
Et concrètement, quel est le support apporté à ces travailleurs et familles-là sur le terrain? Justement, au niveau, est-ce que c'est au niveau des programmes de travail? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a des programmes de travail social? Est-ce que au niveau du climat, d'inquiétude, est-ce que les gens sont supportés de ce côté-là?
C'est sûr que du côté du syndicat, il y a un suivi qui est fait avec l'exécutif local là, de regarder, d'être sûr que tout le monde va bien. Mm-hmm. L'employeur avait mis en place aussi un programme de formation qui lui permettait de faire, je pense, jusqu'à 25 heures de travail en formation, des formations qui se rapportent à leur emploi pour se permettre d'avoir plus que ce qu'offre l'assurance emploi. et aussi d'avoir d'autres heures assurables. Ça a permis de les aider de ce côté-là là, durant la période de fermeture.
Est-ce qu'il y a des travailleurs dans l'usine qui sont là depuis 30, 40, donc plusieurs années? Est-ce que c'est des gens qui ont toujours travaillé à cette usine?
Ça varie. Il y a des gens que, oui, ça peut faire 30, 40 ans, comme il y a des gens qui sont là depuis quelques années seulement. Là, les embauches sont faites à toutes les années. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres depuis peu. Là.
Donc, est-ce qu'il y en a qui, autrement dit, est-ce qu'il y en a qui vont prendre une retraite anticipée, donc après toutes ces années, dans ce contexte?
J'ai pas eu ces informations-là. Je sais, par exemple, que des gens qui ont beaucoup d'années et qui sont près de la retraite, qui ont décidé de laisser passer leur tour là pour permettre à d'autres gens de travailler.
Quelle garantie, s'il y en a, avez-vous obtenu de la direction concernant la suite des choses si cette réouverture ne devient pas permanente? Quelles sont vos plus grandes inquiétudes pour la région?
C'est certain que pour la région, surtout dans la Haute-Gatineau, on perd un employeur majeur. Là, mais je suis quand même optimiste.
Okay.
Parce que ce que la direction nous dit, c'est que c'est une usine qui est productive. C'est pas la productivité le problème. On est dans une passe creuse du marché. La foresterie, c'est cyclique. Quoi qu'on est en crise depuis plus de 20 ans avec les frais qu'on a aux États-Unis, puis là, ce que l'administration Trump rajoute, ben c'est encore plus difficile. Mais l'usine en tant que telle est productive. Il y a un problème d'approvisionnement de la fibre. La bille coûte plus cher à les récolter en forêt que pour d'autres usines.
Oui.
C'est ça qui fait que l'usine de Maniwaki est plus difficile à rentabiliser. Mais en termes de productivité, elle est là. En termes de santé et sécurité, les gens travaillent sécuritairement. C'est pas une zone qui a des accidents. C'est une zone qui est productive, qui sort la même production et même plus que d'autres usines. Fait que ça reste que c'est le prix de la fibre. Puis, faudrait qu'il y ait peut-être un accommodement du côté du gouvernement pour que le bois leur coûte moins cher, parce que c'est pas dans le même type de forêt qu'ils vont la chercher que d'autres usines là, dans leur GA. Là. On parle de forêt mixte où ils doivent trier, puis ils doivent des fois aller chercher plus loin dans des lots pour pouvoir aller chercher le bois qu'ils ont besoin. Donc, ce serait peut-être un travail, une avenue à avoir de ce côté-là. Là.
Oui, justement, j'y arrivais. Là. Quel est le message, dans le fond, que vous voudriez lancer au gouvernement, aux différents paliers de gouvernementaux et à la population, là, en conclusion, là, par rapport à ce qui se passe là, à l'usine de Domtar de Maniwaki?
Ben, moi, je pense qu'il devrait s'asseoir avec l'employeur pour regarder là, c'est quoi qu'il pourrait faire pour les aider dans le coût de la fibre, dans le coût de la bille qu'ils vont chercher. Parce que si la bille coûte, je lance des chiffres en l'air, là, mais... 30% plus cher que pour une usine au lac Saint-Jean, ben c'est certain que l'usine de Maniwaki va avoir beaucoup plus de difficultés à être profitable. Là. Fait que je pense qu'il devrait s'asseoir pour équilibrer les choses. T'sais, on dit qu'on compare des pommes avec des pommes, pas des pommes avec des oranges. Ben là, je pense que ces deux situations complètement différentes. Là. La forêt offre pas l'usine de Maniwaki la même chose qu'elle peut offrir à d'autres usines. Je pense que le prix devrait pas être le même. Autant que si on achète quelque chose à l'épicerie, on prend l'exemple du bœuf, on achète du Angus versus la viande hachée, ben ça sera pas le même prix parce que c'est pas la même chose.
On parle pas de la même qualité. Un peu,
exactement.
Ça. Tout à fait. J'ai été avec Jean-Philippe Roy, le représentant national du syndicat Unifor pour les membres de Maniwaki de l'usine de Domtar. Merci beaucoup pour cet entretien, M. Roy.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Restez avec nous sur les ondes du 97.3. On fait une courte pause publicitaire et l'heure juste reprend tout de suite après. Je discute avec le porte-parole de SOS Outaouais, Jean Pigeon, de la volonté de la ministre de la Santé de faire des CLSC la porte d'entrée des services de première ligne pour tous les Québécois.
Au 97.3, on vous donne